Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Yoann Bredov.
Et Maxime Chanot qui est avec moi. Merci d'être avec nous sur RMC, l'After Live jusqu'à 23h pour vivre cette finale de Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain qui fait sa rentrée en lice et évidemment Aston Villa. On suit toujours les championnats d'Europe d'athlétisme avec les demi-finales du 110 mètres qui se poursuivent. On rejoint tout de suite Valentin Jama, Arthur Perrault au commentaire de ce PSG Aston Villa. Messieurs, juste un petit mot pour parler de l'arbitre de cette rencontre. Valentin, c'est pas n'importe qui va arbitrer cette Super Coupe d'Europe.
Et c'est très symbolique, Omar Hartan, arbitre de 34 ans, somalien, et vous avez probablement entendu son nom parce qu'il est devenu, j'allais dire, tristement célèbre juste avant la Coupe du Monde de football aux États-Unis. C'est cet arbitre, donc somalien, qui s'était vu refuser l'entrée en arrivant à la douane aux États-Unis. Il voulait entrer sur le territoire américain et donc les services américains l'avaient refusé pour des raisons de supposée proximité, de lien avec de potentielles personnes qui sont dans des organisations terroristes. Bref, on avait compris que c'était aussi une question de nationalité malheureusement. Donc Omar Hartan, ça avait été la première polémique de ce mondial 2026 aux États-Unis. Il était rentré en Somalie à Mogadiscio, accueilli comme un héros, des stades remplis. Il a été reçu aussi par le président de la Somalie et donc l'UEFA, qui est en guerre, on peut le dire, contre la FIFA, a directement saisi la balle au bond et a annoncé que Omar Hartan arbitrerait le Somalien cette finale de la Super Coupe d'Europe. Ça aurait dû être le premier Somalien à arbitrer une Coupe du Monde. Il avait été déjà le premier à arbitrer une finale de la CAN, élu meilleur arbitre par la Confédération africaine en 2025, et bien il sera finalement le premier à arbitrer ce match, cette rencontre. Entre temps, il a été sollicité pour des matchs au Koweït, au Rwanda. Sa notoriété a augmenté malheureusement après ce drame presque humain et ce refus de le laisser entrer. Donc il est là et ce sera lui à 34 ans qui va arbitrer cette Super Coupe d'Europe.
Et qui va signifier le début de cette finale de Super Coupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa. Un rappel de la compo parisienne, notamment Arthur.
Oui, avec Safonov dans la cage, la défense, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, la charnière composée de Marquinhos et de William Pacho au milieu de terrain. Vitinha sera entouré de João Neves et de Warren Zaïre-Emery devant. Désiré Doué avec Vishak Varasrelia et la dernière recrue parisienne, Marnes Akliouche.
Et du côté d'Aston Villa, Marco Bizot dans la cage, Lindelof, Pau Torres en charnière centrale, à droite Matikash, à gauche Yann Madsen, le milieu de terrain avec Camara le français, João Gomez, la recrue de Wolverhampton, et Buendia un petit peu plus haut à droite, McGinn à gauche, George Hemmings, et en pointe donc le jeune Brian Mazzo, l'ancien Messin de 17 ans.
La rentrée du Paris Saint-Germain, c'est dans quelques secondes maintenant, cette finale de Super Coupe d'Europe à vivre en intégralité sur RMC. C'est parti entre le PSG, Aston Villa, Valentin Jamin et Arthur Perrault. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes, c'est parti.
Et c'est parti à l'instant, le coup d'envoi donné par le milieu de terrain. Vitinha, nouvelle saison, même rituel pour le joueur portugais. Le dégagement tout de suite dans les 22 du camp adverse et les Parisiens qui partent donc en quête d'un premier trophée dans cette nouvelle saison 2026-2027. Les Parisiens qui rêvent peut-être déjà de réaliser le triplé historique en remportant à l'issue de cette saison une troisième Ligue des Champions consécutive. Et tout de suite, les joueurs du PSG qui mettent le pied sur le ballon derrière, avec William Pacho en direction de Nuno Mendes.
Devant la surface parisienne et donc devant les supporters parisiens, ils sont 7000 ce soir à s'être déplacés dans la Red Bull Arena ici à Salzbourg, un stade de 30 000 places qui est plein, 7000 supporters annoncés de chaque côté et puis les places neutres qu'ont pu acheter ceux qu'ils souhaitaient. Encore la charnière avec Marquinhos qui va s'orienter sur sa droite et qui va aller chercher dans le couloir Désiré Doué.
Oui, Désiré Doué qui va essayer de passer sur le côté droit, mais c'est bien défendu de la part de George Hemmings et du coup les Parisiens reviennent derrière avec le capitaine Marquinhos qui essaye de mettre un petit peu de rythme à gauche avec Nuno Mendes. Les Parisiens qui portent ce nouveau maillot, je sais que tu y accordes beaucoup d'importance Maxime, rouge et bleu un peu fluo, il est plutôt pas mal d'ailleurs ce nouveau maillot parisien pour cette première sortie importante et ce premier trophée possible. Les Parisiens qui gardent le ballon derrière.
Maxime, un petit avis sur le maillot?
Il est très très beau, j'aime bien, je vais aller l'acheter peut-être, t'as raison, et je pense qu'il m'ira bien.
Celui d'Aston Villa est pas mal, bleu ciel un petit peu avec les Chauvin, Bordeaux.
Tu sais, je supporte les équipes françaises.
Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison.
En tout cas, une première passe ratée de la part des Parisiens et la première petite poussante, on va l'appeler comme ça, de Luis Enrique, le ballon dans les pieds des Villains.
et le dégagement de la part de Marco Bizzo directement sur la tête d'Achraf Hakimi sur la droite du terrain, mais le second ballon va être gagné par les Villans. On est dans le milieu de terrain et ça va circuler avec Mings qui va être bousculé par Warren Zaïre-Emery dans le camp parisien. Le coup d'épaule mais qui était plutôt dans le dos, il va gagner une faute, le jeune George Mings, 19 ans, qui donc avait joué 4 matchs seulement la saison dernière, et avec les absents il a gagné sa place en préparation en jouant les matchs amicaux, et donc le voilà titulaire, le milieu de terrain qui obtient un coup franc à 35-40 mètres. Ce sera l'occasion de mettre le ballon dans la surface. On sera légèrement décalé côté gauche pour Buendia, l'Argentin.
Oui, Buendia qui a tout de suite pris ce ballon. Le numéro 10, on attend le coup de sifflet de l'arbitre. Omar Hartan, le bras levé de Buendia. C'est parti, ça va être au second poteau. Attention à la tête défensive. C'est bien défendu de la part de Nuno Mendes, mais finalement ça revient à droite très rapidement du côté des Villains.
Avec John McGinn à droite de la surface, se met sur le pied gauche, le centre, il est plongeant. Deuxième poteau, la tête de Pacho pour la sortir à droite de la surface de réparation. À Cliouche va essayer de sauver la touche et il n'a pas touché le ballon, et donc la touche sera sous le pressing de Boubacar Camara, sera accordée au Villans tout près du poteau de corner parisien sur la gauche du terrain, et donc encore une fois la situation peut-être de mettre un ballon vers la surface pour Yann Madsen.
La troisième minute de jeu ici à Salzbourg, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, mais les Villans qui sont assez haut sur le terrain. La touche qui est jouée à l'instant et on va insister sur le côté gauche
avec Yann Madsen qui va faire un 1-2 avec Hemmings. Il va rentrer dans la surface, Madsen, le centre en retrait peut-être vers Madjo, contre corner. Corner, le sauvetage de Zaïre-Emery, mais là Maxime, c'est passé trop facilement sur ce côté gauche.
Oui, j'allais le dire, Aston Villa qui a très très bien débuté le match. On sent vraiment la touche Unai Emery, hein, beaucoup d'intensité avec et sans ballon, hein, pour l'instant les Parisiens. Attention parce que Villa qui est très très bien, encore une fois je le répète, mais rentré dans son match.
Ouais, et le corner qui va être tiré de la gauche vers la droite, et attention parce que ça se bouscule dans la surface de réparation. C'est parti, ça va être au point de pénalty, la tête défensive du capitaine Marquinhos, mais attention derrière parce que Matikash est vigilant, on va pouvoir réorienter le jeu une nouvelle fois.
Il est pressé par Akliouche et du coup il va même être obligé de revenir en retrait, Matikash, le polonais, vers Marco Bizzo, l'ancien gardien du Stade Brestois, le néerlandais qui contrôle avec la semelle devant sa surface de réparation. Paris qui va sortir un peu, on va relancer vers Boubacar Camara qui a raté toute la fin de saison dernière, toujours blessé, très souvent blessé, l'international français qui a raté la fin de saison, blessé au genou, et qui revient dans le 11. Ça se bagarre au milieu de terrain, c'est Joao Neves qui rate une passe en retrait et c'est déjà récupéré donc par les Villans avec McGinn.
Oui, McGinn qui a réussi à combiner avec Gomez, mais derrière le bon pressing de Joao Neves, et c'est Nuno Mendes qui arrive à prendre le relais. Attention, Vitinha qui va réussir à transmettre rapidement à droite
avec Désiré Doué qui va aller travailler face à Madsen à droite de la surface de réparation. Le bon tacle de Madsen, impeccable, le néerlandais, pour prendre le ballon dans les pieds de Désiré Doué qui a raté son dribble et qui derrière va faire une vilaine faute en taclant Yann Madsen. Attention à ce début de match. Ouais. C'était pas nécessaire, ouais, c'était dans le camp de Villa.
C'est l'arrière du genou gauche. Hein.
Et c'était un peu dangereux.
On sent un peu de frustration, hein, de la part de l'international français là, qui a perdu son duel. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais on sent aussi que physiquement, hein, les hommes d'Unai Emery sont prêts. Hein. Il faut pas oublier qu'ils ont commencé leur premier match de préparation, il me semble, le 21 juillet. C'est 7 jours avant le premier jour de la reprise des Parisiens.
Avant la reprise, ouais.
Donc clairement, ils sont physiquement en avance par rapport aux Parisiens.
Oh, ils préparent les missions, Maxime Chan.
Toujours. Bien, j'ai appris des meilleurs de toi.
C'est un grand professionnel.
Ah, oui.
C'est le même visage que les Villens qu'on avait vu au mois d'avril la saison dernière en Ligue des Champions. Évidemment, beaucoup de contacts, beaucoup d'intensité dans les duels, et voilà, c'est la même équipe que l'on retrouve ici à Salzbourg. Et alors qu'on approche la 6ème minute de jeu, 0-0 toujours, on le rappelle, entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Là c'est Marco Bizzo qui va prendre son temps pour dégager son équipe.
Et pour revenir à la différence de prépa, Paris a fait deux matchs amicaux, défaite face à Mallorca 3-0, nul face à Manchester United, un partout, avec une équipe à moitié pleine, hein, j'allais dire, avec 8 internationaux absents jusqu'au bout, quand Villa a fait 6 matchs amicaux, donc avec moins d'internationaux qui étaient présents à la Coupe du Monde, donc avec bien plus de jambes. Hein. Ce soir, ce sera logique de voir les Parisiens souffrir physiquement. Il y a un gros décalage. Mais bon, face à Tottenham l'an dernier, Paris avait réussi à gagner au tir au but. On était sur une situation similaire. La relance de Safonov qui est venu cueillir un ballon facile qu'il a mis à gauche vers Nuno Mendes qui repasse par Pacho dans sa surface.
Oui, un ballon facilement perdu par les Anglais qui cherchent énormément Madjo en pivot. Hein. On va en reparler, Maxime, mais c'est vraiment quelque chose de travailler. Lui qui va faire jouer son physique à la pointe de l'attaque des Villains. La tentative de passe sur le côté droit du Paris Saint-Germain. Finalement, ce sera une touche, ballon récupéré. C'était pour Marnès à Cliouche. C'était beaucoup trop long sur ce coup-là.
Et ça va être frustration.
Intéressant, messieurs, vous avez parlé de Madjo. Le duel entre lui et Pacho, hein, c'est physiquement deux beaux bébés.
1,93 Brian Madjo, 17 ans, 1,93 Donc je sais pas si tu t'en étais rendu compte face à lui, mais c'est
Ah oui, je peux te dire. Bah, il m'a plus senti que l'inverse, mais ouais, en effet pour ça.
De la tribune, ça se voit. Hein. Et carré, c'est armoire, coffret, tout ce que tu veux là. C'est...
Ah, on est comme ça au Luxembourg, messieurs. On est tous très.
Pour revenir à son cas, donc il est parti de Metz à 16 ans et 5 matchs en Ligue 1 seulement, voire 5 bouts de match contre 12 millions l'hiver dernier. En fait, quand il est arrivé, eh bien, il a été interdit de jouer parce qu'il y a une règle sur les transferts de mineurs internationaux interdit. Et il y a une dérogation européenne d'habitude, mais l'Angleterre n'étant pas dans l'Union européenne, ils ont fait appel auprès du TAS. Bref, ça a pris des plombes. Et donc, le TAS a rendu sa décision cet été. C'est pour ça qu'après 6 mois, on a enfin Brian Madjo sur la pelouse. Voilà, donc, lui qui était luxembourgeois, mais qui a choisi une sélection qui fait un peu plus de compétition, Maxime. Ouais,
voilà. C'est une longue histoire, mais c'est vrai qu'au pays, ça a fait beaucoup parler parce que beaucoup ont pensé qu'il avait utilisé, entre guillemets, la sélection luxembourgeoise pour derrière être appelé avec les jeunes anglais. Bon, voilà, écoute, ça fait partie du football. Là.
La tentative de passe en profondeur vers Hemmings, c'était Buendi à l'origine et finalement ça va être un peu trop fort, récupéré tranquillement par Matvei Safonov et les Parisiens qui essayent de s'organiser hein, face au pressing assez haut pour l'instant d'Aston Villa et du coup on prend son temps. William Pacho qui va aller à droite tranquillement en direction du capitaine Marquinhos.
Et la balle vers Désiré Doué qui va revenir en retrait vers Pacho. On est encore devant la surface parisienne, il va orienter à gauche avec Nuno Mendes, le Portugais lève les yeux, il y a toujours un Cliouche en pointe, il va mettre à gauche Kvaratskhelia, mais on n'a pas trop avancé et la preuve, on va même revenir en charnière avec Pacho
qui essaye de regarder devant lui, il n'a pas de solution, du coup on revient à gauche du côté du Paris Saint-Germain. C'est difficile hein, y compris dans la profondeur, de trouver des solutions et là c'est João Neves et Warren Zaïre-Emery qui font l'effort pour apporter une solution. C'est très compliqué, Madjo est là aussi pour faire le pressing, on va essayer à droite mais pour l'instant c'est très 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 bien fermé de la part des Villers.
Vitinha, rond central, passe verticale vers Doué qui s'est réaxé, c'est bien joué, il va lancer à droite Hakimi en profondeur, Hakimi va se lever de la poitrine dans la surface à droite de la surface, le Marocain qui va centrer à bout de course, il a raté son centre, ça a été intercepté par Pau Torres, mais Kvara vient ensuite gêner l'Espagnol.
Ouais, Kvara qui va combiner avec Marnès à Cliouche en direction de Désiré Doué, la tentative de centre de l'extérieur du pied, c'est compliqué, la déviation avec Neves, attention qui retransmet à gauche
vers Nuno Mendes, à gauche de la surface, le petit crochet, le centre dans la niche de Marco Bizot. On a vu quand même, Maxime, que sur certains mouvements il y a évidemment des restes et des automatismes qui reviennent vite, notamment les courses d'Hakimi, on sait où lui mettre la balle.
Ouais, intéressant hein, la tactique d'Emery hein. Il a quand même positionné son bloc assez haut, il n'y a pour autant pas énormément de pression, mais c'est vrai que ça laisse beaucoup d'espace dans la défense, dans le dos de la défense d'Aston Villa. Donc voilà, il faut que les Parisiens en profitent. Il y a énormément de courses vers l'avant, on l'a dit, avec Hakimi, avec les attaquants parisiens. Je pense que la clé du match se joue dans cette partie-là côté parisien.
Et on se posait des questions sur l'état de forme de Achraf Hakimi hein, puisque ça pouvait paraître étonnant qu'il soit titulaire sur cette rencontre vu l'accélération qu'il vient de mettre. Voilà, c'est un premier indicateur plutôt une nouvelle fois rassurant pour l'international marocain. Les Parisiens qui récupèrent le ballon avec Vitinha dans le rond central
et ça va leur faire du bien, ils ont remonté le bloc applaudi par Luis Enrique. 10e minute de jeu, 0-0 dans cette super coupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa. On est de nouveau à droite maintenant dans le camp de Villa avec Désiré Doué qui va revenir vers l'axe et qui va peut-être transmettre à João Neves
qui va repartir à droite en direction d'Achraf Hakimi. Il a un petit peu de champ devant lui, est-ce qu'il va transmettre à Cliouche? Oui, à Cliouche qui va aller fixer, à Cliouche qui essaie de revenir un peu dans l'axe et finalement il revient derrière en direction de William Pacho
qui va trouver devant lui Vitinha à 25 mètres, il va armer la frappe, Vitinha la première tentative au-dessus, 2-3 bons mètres au-dessus de la cage de Marco Bizot et donc le 6 mètres à venir pour le néerlandais après 11 minutes de jeu, 0-0 ici à Salzbourg.
On a 10 minutes donc de jouer pour les Parisiens, comment tu les trouves? Il y a eu 3-4 minutes un peu compliquées avec Aston Villa qui était dans la surface parisienne, ça va un petit peu mieux quand même pour l'équipe de Luis Enrique et Maxime.
Voilà, t'as résumé, tu vois toute l'expérience de cette équipe parisienne, ils ont laissé passer l'orage, un petit orage hein, vraiment hein, sur les 3 premières minutes et derrière ils ont récupéré la possession de balle et tu sens qu'ils sont en train de mettre en place leur jeu. Voilà, c'est aussi toutes les qualités d'un double champion d'Europe comme le Paris Saint-Germain.
On suit évidemment cette super coupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa, mais je vous coupe messieurs, je vous interromps quelques secondes pour aller au championnat d'Europe de Birmingham, championnat d'Europe d'athlétisme. On aura Aurélien Tirsin, 3 Français en finale du 110 mètres haies.
Bah, il faut applaudir, tout simplement. Bravo. On avait juste quoi au maté. Merci les gars, qui a remporté sa première demi-finale. Dans la deuxième demi, Thomas Wilkes a terminé deuxième en 13-40. Alors il s'en sort bien parce que le Belge Eli Bakary s'est mangé une haie et il était largement en tête, mais ça passe pas Wilkes. Et Théo Pedre passe au temps, troisième de sa demi. Mais c'est un petit cul en 13-31. Teddy repêché au temps, on aura quand même 3 Français. Et ça c'est magnifique, avec un duel à venir, peut-être juste quoi au maté face au Suisse Jason Joseph.
Trois Français donc à suivre.
C'est sûr qu'on est content, c'est sûr. Oui. On est content. On a trois Français en finale. Il faudra faire quelques ajustements, n'est-ce pas, pour se permettre justement la médaille d'or. Mais derrière, on a quand même Théo Pedre qui a réalisé une très belle demi-finale, même s'il n'est repêché qu'autant, il réalise quand même 13-31, ce qui reste quand même une très bonne performance. Il y a quelques détails aussi à jouer, hein. Forcément, c'est les haies, il y a pas mal de déchets, donc c'est très difficile d'effectuer la course parfaite. Mais en finale, ce sera une nouvelle course et je pense que nos Français ont de belles choses à nous montrer.
Ouais, peut-être deux médailles, Johan, tout à l'heure. On peut espérer deux médailles françaises à 22h47 au 110 mètres. Ouais.
On suivra ça, évidemment. Énorme occasion pour Aston Villa face au Paris Saint-Germain, la Super Coupe d'Europe. Valentin Jamar, Arthur Perrault.
Un ancien Marseillais, 13e minute de jeu. La frappe à 20 mètres, plein axe de Boubacar Camara avec son pied droit, rat de terre, qui va passer à gauche du poteau droit de Matvei Safonov. Enfin, à gauche, si on est du point de vue d'Aston Villa. Trop croisé, cette frappe de Boubacar Camara, mais un petit peu trop seul à l'entrée de la surface de réparation. Et donc le premier frisson là, parce qu'avec l'angle de vue, ça semblait plutôt bien parti. Safonov s'était détendu, mais Bouba Camara n'a pas réussi à cadrer. Donc petite alerte après un ballon perdu par les Parisiens, qui en sont toujours à 0-0 après 13 minutes de jeu. Et la relance vers Madsen pour Villa, qui a repris le ballon.
Ouais, et les Villains qui sont de nouveau les plus dangereux, hein. Maxime, on en parlait il y a quelques instants, avec attention cette tentative de contre-attaque sur le côté gauche. Attention, parce qu'il y a Maggio qui est dans la profondeur. Non, finalement il va revenir derrière Hemmings, il va réussir à temporiser, peut-être à combiné dans le rond central.
Avec la remise de Buendia, peut-être vers Hemmings, il avait essayé, hein, trouvé à 25 mètres, l'appel en profondeur d'Hemmings qui avait plongé, finalement ça a été contré et on ira en touche du côté des joueurs d'Unai Emery. Sur le côté gauche, elle sera pour Yann Madsen qui va donc bénéficier, hein, entre guillemets, du départ de Lucas Digne vers Paris. Lucas Digne remplaçant ce soir puisqu'il va devenir titulaire à part entière. La touche vers Brian Maggio, la déviation de la tête ratée, ce sera pour les gants de Matvei Safonov.
Ouais, et Matvei Safonov qui va prendre le temps de replacer sa défense. Et Luis Enrique s'est levé, hein, pour la première fois, les bras croisés devant son banc de touche, et il demande à Matvei Safonov de mettre un peu de rythme et d'essayer de vite relancer, parce qu'il y a un très gros pressing une nouvelle fois du club anglais et ça embête les Parisiens à la relance.
Le dégagement directement vers Matty Cash qui va la mettre à Victor Lindelof, le Suédois éliminé par la France à la Coupe du Monde, vers son gardien Marco Bizot qui va dégager sur le côté gauche. Yann Madsen, la remise de la tête plein axe, et on va avoir un contre favorable, pas pour longtemps, puisque Zaïre Emery, Kliouche, ils sont mis à deux face à Madsen et ont récupéré le ballon dans le camp d'Aston Villa.
Et le petit pont de Warren Zaïre Emery, hein, c'était plutôt bien fait. Et les Parisiens qui arrivent de nouveau à se projeter vers l'avant avec Marquinhos qui demande à João Neves de monter d'un cran pour apporter d'autres solutions. Vichak Varaskrelia qui est trouvé à gauche et finalement on revient derrière avec Nuno Mendes.
Mendes, plein axe, qui va la mettre. Ah, ça fait 2-3 fois qu'il rate des passes. Bon, Maxime, c'est peut-être la reprise aussi, hein, techniquement, et ça manque de repères, mais un peu dans le dos de Pacho, ça n'a pas de conséquences et on va repasser par Safonov.
Oui, c'est des joueurs qui vont monter en puissance, hein, c'est jamais facile. Voilà, c'est le premier vrai match pour eux, hein, vraiment de la saison. Donc ouais, on peut comprendre un petit peu. C'est vrai que il y a aussi un peu de fatigue, hein, même si ça fait que 15 minutes. Voilà, c'est des efforts qu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire sur les 3-4 dernières semaines depuis la Coupe du Monde. Voilà, ça peut être logique, mais je ne m'inquiète pas trop pour ces joueurs qui ont tellement de qualité technique. Ne vous inquiétez pas, messieurs, ça va vite rentrer dans l'ordre.
Le temps, le score, Valentin Jamar, Arthur Perrault sur ce PSG Aston Villa, Super Coupe d'Europe.
Le quart d'heure de jeu à Salzbourg, 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa.
Et dans l'afterlife, on continue à vivre également les championnats d'Europe d'athlétisme. On le rappelle, il y aura trois Français en finale du 110 mètres haies. Il y aura trois finales même à suivre avec des Français tout au long de la soirée. On est ensemble jusqu'à 23h avec Maxime Chano, 0-0 pour l'instant en Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. L'afterlife revient dans quelques secondes.
RMC, l'afterlife.
Johan Bredov.
21h18 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'After Live avec Maxime Chano. On suit cette Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Valentin Jamar, Arthur Perrault, le ballon dans les pieds parisiens.
18e minute de jeu, toujours 0-0. La frappe la plus dangereuse est venue de Boubacar Camara à la 13e. Elle est passée à côté, mais elle était proche du poteau de Matvei Safonov. Sinon, pas grand chose à signaler pour les Parisiens qui ont récupéré la possession avec Marquinhos qui va aller voir à droite Hakimi.
Oui, et Luis Enrique qui concentre ses consignes sur Nuno Mendes, hein, souvent bien embêté à la relance. Il lui a expliqué de ne pas hésiter à basculer rapidement de l'autre côté vers Achraf Hakimi. Les Parisiens qui essayent de mettre un peu plus de rythme dans la transmission du ballon avec la Gvichak Varaskrelia qui est est passé du couloir gauche au milieu de terrain jusqu'à Vitinha.
Vitinha, rond central sur sa droite vers Joao Neves. C'est Kvaratskhelia qui s'est un peu réaxé. On l'a pas beaucoup vu. Lui qui est censé être l'élément offensif le plus en forme. On est allé à droite du terrain. Hakimi l'a accroché. Il a perdu le duel encore face à Yann Madsen. Derrière, il y a Hemmings qui va passer le milieu de terrain pour Aston Villa. C'est un 3 contre 3. Hemmings, il va faire demi-tour face à la pression. Il va se réaxer.
Ouais, il essaye de passer ce ballon à Majo, mais une nouvelle fois, c'est mal joué. Majo qui était venu bien plus proche de lui. Et finalement, les Parisiens qui vont pouvoir récupérer ce ballon et relancer rapidement en direction de Vitinha, Maxime.
C'est dommage hein, pour les joueurs d'Unai Emery hein, du côté d'Aston Villa, parce que ça fait deux fois là, que Hemmings il a la possibilité de pouvoir servir Brian Majo dans la profondeur, qui en un contre un avec Marquinhos. Et pour le coup, il a toujours une ou deux touches en trop. C'est dommage. Un petit manque d'expérience de la part de ce joueur.
Qui est tout jeune, hein, on le rappelle, 19 ans, et qui pour l'instant, en tout cas, bénéficie aussi du bon début de match de Yann Madsen, le latéral gauche, qui, face à Hakimi et face à Doué, fait le boulot. Est-ce qu'il le fera face à Akliouche, qui a décalé à droite Hakimi? On est assez haut sur le terrain, entrée de surface presque maintenant pour Marnès Akliouche, l'ancien monégasque à sa gauche, vers Warren Zaïre Emery.
Zaïre Emery qui va lui aussi passer une nouvelle fois à gauche, en direction de Nuno Mendes. Warren Zaïre Emery qui récupère le ballon, il revient dans l'axe, avec Vitinha qui a un petit peu de champ devant lui, il va réussir à combiner avec Vishak Kvaratskhelia.
Ils sont hauts sur le terrain, les Parisiens, et Pacho, le joueur le plus bas, touche le ballon là au niveau de la ligne médiane, il la met sur sa gauche à Warren Zaïre Emery, assez bas vers sa défense, le 1-2 avec Vitinha, avec Vara maintenant qui est plein axe, qui va ouvrir à droite vers Hakimi.
Hakimi qui a un petit peu de place lui aussi, qui va pouvoir centrer, la tentative de centre, la tête de Marnès à Kliouche, ça arrive au second poteau en direction de Nuno Mendes. Mendes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir vers Vishak Kvaratskhelia
qui va dribbler à gauche de la surface, un joueur, deux joueurs. Vara la passe en retrait, Désiré Doué la frappe, elle est contrée, l'arrêt de Bizot. Oh, l'arrêt réflexe alors que ça a été contré juste devant lui, d'ailleurs c'est dégagé par Aston Villa. Et Majo qui perd déjà le ballon à 35 mètres.
Et c'est pas terminé avec Désiré Doué qui va transmettre à gauche à Vishak Kvaratskhelia, à la classique, la frappe, le but! Le but parisien! La classique! La classique de Vishak Kvaratskhelia, côté gauche, rentré dans l'axe, pied fermé, et ça fait ficelle, l'ouverture du score, signé Vishak Kvaratskhelia pour le Paris Saint-Germain qui prend les devants dans cette Super Coupe d'Europe.
Ah, c'est le très 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 haut niveau hein. Une paire de balles du luxembourgeois Brian Majo, et derrière en deux passes, voilà, Kvara qui se retrouve avec le ballon, qui fait la spéciale comme vous l'avez dit messieurs, voilà, qui se remet sur son pied droit sur un simple crochet. Derrière, je pense que Bizot, le gardien d'Aston Villa, est pas exempt de tout reproche.
Ouais, il fait un pas de côté en trop, on va dire.
Exactement, il s'attend peut-être pas justement à que Kvara ferme son pied comme il vient de le faire, mais en tout cas c'est très très bien joué. C'est la raison pour laquelle les Parisiens sont double tenants du titre en Champions League, parce qu'individuellement c'est juste trop fort.
Ah, il répond présent, Kvaratskhelia. On disait que lui et sa préparation n'étaient pas tronqués. Là, c'est la spéciale. Après, peut-être qu'ils seront pas peu Bizot. Mais le missile qu'il envoie, Kvaratskhelia, la frappe, elle est sublime.
Ouais, c'est fort.
On a la perspective d'où on est. En plus, il est assez près, hein, parce qu'il est dans la surface. Et il la prend coup du pied. Elle
c'est
est hyper puissante.
Ça va tellement vite.
Et c'est vrai que, vu la position dans laquelle il est, on a l'impression que le réflexe, c'est d'enrouler au deuxième poteau. Et,
c'est ça.
Et bon, Kvara, il a une puissance de frappe quand même. Je me rappelle l'an passé face à Bergame, il avait fait à peu près pareil, mais plein axe. Et Bizot, il avait fait un premier miracle. Il en fera pas de deuxième. Attention, parce que le ballon a été récupéré très haut avec Désiré Doué par les Parisiens. Désiré Doué, il y aura une faute. Il y aura une faute de João Gomes, je crois.
Ouais.
Ils se sont complètement ratés sur l'engagement. Les Villanes, c'est déjà Paris qui est dans une position offensive.
Tiens, rapidement, avant de suivre le coup franc, détour par les championnats d'Europe de Birmingham. Une très bonne nouvelle pour le sprint français. Aurélien Tiercin avec la qualification en finale du 200 mètres de Joseph.
Ouais, très bien maîtrisé. J'ai mis ma Joseph. C'est la seule sprinteuse de l'équipe de France. Il n'y en a pas chez les garçons. Il n'y en a qu'une chez les filles. Deuxième de sa demi-finale en 22-68 derrière la reine Dina Asher-Smith, la Britannique, vainqueur en 22-49. Teddy, très bien maîtrisé de la part de Jimmy ma Joseph en deux mots.
Ouais, tout est parfait, hein. Tout est parfait au niveau de cette course. Vraiment, elle a très, très, très bien géré le virage. Et après, derrière, c'était beaucoup plus facile pour elle d'enchaîner. Voilà, elle est en finale, c'est génial. C'est la seule participante, n'est-ce pas, représentant, n'est-ce pas, le sprint français. Et voilà, une personne, une finale, c'est parfait.
Finale demain à 22h50.
Retour à Paris Saint-Germain, Aston Villa, Valentin Jamar, Arthur Perrault, le coup franc, tiré à deux.
La tentative de frappe de Nuno Mendes, et ça va passer bien à gauche du poteau de Marco Bizot. C'était une combinaison tentée à l'origine par Vitinha qui frappait ce coup de pied arrêté, et finalement voilà, c'est complètement manqué de la part de Nuno Mendes. On le rappelle, le Paris Saint-Germain qui mène au score depuis 2 minutes, le but inscrit par Vishak Kvaratskhelia, et les Parisiens qui sont clairement dans un temps fort et qui vont une nouvelle fois obtenir un coup franc après une faute sur Marnès Akliouche.
Et j'ai encore... Je profite de cet arrêt de jeu pour faire l'évolution des cotes avec Julien Boubneuf.
1,23 maintenant la victoire du PSG, 5,20 le match nul, 10,50 la victoire d'Aston Villa. Pourquoi pas Kvara pour un doublé à 5,70.
Valentin,
C'est encore João Gomes qui fait la faute. Il faudra surveiller le Brésilien qui est arrivé cet été de Wolverhampton contre 40 millions d'euros. Hein, les prix des transferts aux États-Unis. En Angleterre, c'est quand même quelque chose. Et le coup franc est quasiment comme tout à l'heure, légèrement décalé côté droit. Cette fois, on est à 35 mètres. Vitinha va le mettre cette fois sur la droite avec Désiré Doué.
Désiré Doué qui va les fixer. Désiré Doué qui essaye de passer dans la profondeur. La tentative de passe, c'est contré par la défense des Villains. C'est derrière, c'est bien récupéré par Akliouche.
Qui va la mettre en retrait. Vitinha plein axe vers Zaïre Emery à l'entrée de la surface. Le contrôle saute un peu. Du coup, il va revenir en retrait avec Nuno Mendes qui va écarter vers le buteur. Varaskelia
qui arrive à passer une fois. Varas, il va passer deux fois. Varas qui continue. Faute, oui ou non? Faute, non. Sur Varaskelia qui s'effondre dans la surface de réparation. Et attention à la tentative de contre-attaque des Villains.
Le ballon va sortir. La mauvaise passe de Camara. Et là, attention à l'arbitrage vidéo parce que João Gomes, notre ami qui a déjà fait deux belles fautes tout à l'heure, il le retient par le bras. C'est assez flagrant. Est-ce qu'il y a faute de là à tomber? Je ne sais pas.
Maxime, pour moi, il y a faute. Il le retient par le bras.
Ça tire le maillot des deux côtés. Non,
ça, Maxime,
non,
rien. Ça reprend.
Ah, d'accord. Bon, bah, à voir. Mais en tout cas, après, ça fait partie du foot, hein, ce genre de duel, mais c'est vrai qu'il le retient par le bras, puis Vara évidemment qui fait jouer son expérience et qui se laisse tomber peut-être un peu facilement, mais il y avait malgré tout contact.
Toujours à zéro. Donc pour le Paris Saint-Germain face à Aston Villa, on sent que depuis le but, hein, depuis l'action du but, Maxime, ça va beaucoup mieux pour les Parisiens qui sont plus hauts, qui ont un peu plus le ballon et il y a moins d'imprécision technique.
Ouais, le rapport de force est clairement à l'avantage du Paris Saint-Germain. Ils ont fait le plus dur entre guillemets en marquant ce premier but et maintenant tu le vois, la qualité technique des Parisiens, c'est facile pour eux, ils font tourner. En plus de ça, Aston Villa qui ne presse pas énormément.
Oui.
Voilà, c'est du pain béni, hein, pour les Parisiens.
La physionomie de cette rencontre a totalement changé, hein. C'est vrai que depuis le début du match, on voyait un club anglais très haut sur le terrain, avec un très gros pressing, et c'est en train de changer. À noter, messieurs, que Lucas Beraldo est en train d'arriver sur le bord du terrain pour s'échauffer. C'est assez étonnant. Il est avec le préparateur physique, donc voilà, à surveiller dans les prochaines minutes. Attention, les Parisiens qui partent en contre-attaque.
Nuno Mendes lancé à gauche par Varaskelia, il est déjà dans la surface. Nuno Mendes à gauche de la surface, ce sera entre deuxième poteau. Trop fort. Il n'y a personne pour couper. Ils étaient 4, aucun dans le bon timing. Ça revient à droite, le centre de Doué, deuxième poteau, c'est coupé, c'est dégagé, enfin pas vraiment dégagé parce que McGinn essaie de relancer devant sa surface, il va le faire à gauche. Bah alors là, ils étaient 4, Maxime, il n'y en a pas un dans le bon timing. Alors est-ce que c'est la passe, est-ce que ce sont les appels? C'est dommage.
Ils étaient 4 en effet, dont Hakimi et Vitinha qui avaient suivi justement le ballon. Après voilà, peut-être une imprécision technique de la part de Nuno Mendes. On a le sentiment que Hakimi et Vitinha ne se parlent pas, mais en tout cas sur le début de cette action, le 1-2 entre Nuno Mendes et Kvara, on parlait un petit peu de questionnement par rapport aux qualités physiques en tout cas de Nuno Mendes ou en tout cas des nouveaux arrivants là, sur cette saison-là. Bah, je pense qu'on a déjà la réponse, ils sont tous prêts, hein. Ils sont tous prêts, hein. C'est vraiment les joueurs d'Aston Villa qui ont l'air de souffrir là, depuis 5-6 minutes.
Et les automatismes sont toujours là, hein. Là aussi n'ayez pas de doute, c'est la même équipe championne d'Europe fin mai dernier qui est bien là, et pour l'instant le Paris Saint-Germain qui domine, hein, cette rencontre aussi dans le cœur du jeu, et ça se voit à l'instant avec un ballon perdu au niveau de la ligne médiane et récupéré par Nuno Mendes très très tranquillement
après un énorme effort de João Neves. Alors les trois Portugais ont joué une demi-heure face à Manchester United samedi lors du dernier match amical, tout comme Marquinhos, et donc les Français Ruiz et Hakimi, eux, bah, vraiment reprennent la compétition ce soir. Beraldo toujours à l'échauffement. J'ai cru lire tout à l'heure sur les lèvres le nom de João. Donc João Neves, Luis Enrique parlait un adjoint. Est-ce que c'était pour ça ou pas? En tout cas, il joue au milieu maintenant, Beraldo. Donc ce pourrait être le cas. Paris à la relance avec Vitinha.
Vitinha qui va arriver à passer une fois, deux fois, et à transmettre à Gvichak Varaskelia qui arrive à combiner avec Marnes Akliouche qui s'est désorienté un petit peu sur le côté gauche, désaxé l'ancien joueur de l'AS Monaco. Attention, Maggio qui est trouvé cette fois dans la profondeur.
Dos au but face à Pacho, il est face à 3-4 joueurs. Il va écarter à droite de la surface vers John McGinn, le centre de l'Écosse. C'est la tête de Maggio à côté. Oh, décroisé cette tête de Brian Maggio. On l'avait vu venir de loin. Il est si grand. Il était entre les deux défenseurs centraux et c'est trop décroisé. Ça passe à côté. Explication Marquinhos Vitinha sur le coup.
Et attention parce que Luis Enrique vient de demander à João Neves si ça allait. Et João Neves a fait un petit signe du pouce. Donc ça semble tenir pour le milieu de terrain portugais.
Ouais, Marquinhos qui reproche à Vitinha de ne pas avoir suivi Maggio, mais c'est plus Pacho, hein, j'ai l'impression, hein, qui laisse partir son marquage.
Il est totalement passif.
Exactement.
Oui.
Il s'attendait peut-être pas à ce que le centre arrive, en tout cas sur la tête de Brian Maggio. C'est dommage, hein, parce que Maggio était à la base de cette action. C'était lui justement qui était présent tout au début sur la première passe. Il avait arrivé à décaler ce ballon et derrière il avait été tout droit devant le but. C'est dommage parce que c'est une très très belle occasion pour les Villains.
Après, entre nous, Maxime, Vitinha, Maggio, le duel de la tête, bon, je crois pas
ça
trop.
Ça aurait été compliqué. C'est vrai qu'il y a une différence de taille, mais tu sais, des fois, juste d'être au marquage, entre guillemets, de gêner, de pousser un peu, c'est suffisant.
Le PSG s'en sort bien, s'en sort très bien sur cette action, mais est toujours devant au score alors qu'on arrive à la demi-heure de jeu.
Oui, le but, on le rappelle, à la 20e de Gvichak Kvaratskhelia, et on est désormais à la 28e, et cette fois les joueurs d'Aston Villa qui essayent de nouveau de se montrer dangereux avec une tentative de contre-attaque, la bonne combinaison avec McGinn et Camara, mais le ballon qui est perdu derrière.
Zaïre Emery, plein axe pour Nuno Mendes qui va déjà écarter à gauche. Kvaratskhelia, c'est un peu trop profond à gauche de la surface de réparation. Le Georgien face à Lindelof, il va aller le bosser, il va aller le travailler. Le dribble de Kvara qui n'est pas passé, le centre au deuxième poteau vers Madsen qui va remettre de la poitrine à Marco Bizot. Cette fois, il aurait peut-être pu faire un peu mieux, le buteur géorgien, début en Ligue des Champions la saison dernière, meilleur joueur de la compétition, et peut-être Maxime qui se rapproche un peu du ballon d'or.
Oui, bah, but, ça compte Maxime.
Oui, oui, ça compte. Ça compte. C'est vrai qu'il a fait une très très belle saison l'année dernière. S'il devait gagner ce trophée, oui, pourquoi pas.
Non, mais tu crois pas.
Non, je pense que ça
le seul truc, c'est la Coupe du Monde. Quoi.
Voilà, oui, bah, c'est un gros truc.
On sait que ça compte beaucoup. Bah, oui,
ouais, mais tu le donnes à qui en Espagne?
Ah bah à voir.
Fabien Ruiz.
Oui,
quasiment pas joué en Ligue des Champions.
La saison, il reste encore quelques matchs, aussi la forme du moment hein, sur les prochaines semaines. Par contre, messieurs, je me permets juste de faire un petit aparté. J'aime beaucoup le petit Madsen, hein, le numéro 22 du côté d'Aston Villa.
C'est vrai.
Vraiment, qui fait un super début de match. Comme quoi, je ne sais pas s'ils n'ont pas fait un très bon choix en vendant Luka Digne. Hein.
Ah oui, tu trouves?
Écoute, ce qu'on vient de voir, attention, ça fait que 20 minutes, mais très serein avec le ballon, très bon.
Il se projette très haut, exactement.
Ouais, c'est
plutôt intéressant.
Le joueur anglais depuis le début de cette partie.
C'est vrai, et il demande énormément le ballon. Hein. Il vient de le demander à l'instant, et d'ailleurs, il est un petit peu énervé parce qu'on va insister sur le côté droit avec McGinn, et une nouvelle fois, le ballon qui est perdu. Tentative de récupération de Nuno Mendes, mais finalement, ce sera une touche en faveur des Villers.
Il y a un petit duel dans le match entre McGinn et Nuno Mendes qui est sympa à suivre parce que tout à l'heure, ils se sont un peu pris la tête sur la place d'un coup franc. Et maintenant, dès qu'il y a un duel, ça s'invective un peu. On a gagné du terrain du côté de Villa. La première touche a été sortie de la tête par Pacho. Cette fois, on est à droite de la surface de réparation. Nouvelle touche pour Matikash et pour Aston Villa.
On va faire une petite pause. Arthur Perrault, Valentin Germain, Maxime Chano sur RMC dans l'After Live. Le temps, le score, messieurs.
1-0 pour le Paris Saint-Germain, 31 minutes de jeu. Kvaratskhelia, le buteur.
Allez, on revient dans un peu plus d'une minute pour continuer à vivre cette Super Coupe d'Europe et évidemment les finales en athlée. Pour les championnats d'Europe à Birmingham. A tout de suite dans l'After Live.
RMC, l'After Live.
Johan Bredov.
21h32, merci d'être avec nous dans l'After Live. On suit la Super Coupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa avec Maxime Chano, Valentin Jamin, Arthur Perrault. Le PSG est devant et bien parti dans cette finale de Super Coupe d'Europe.
Oui, depuis la 20e minute de jeu et l'ouverture du score signé Gvichak Kvaratskhelia, et depuis les Parisiens qui arrivent à prendre le dessus hein, sur leur adversaire dans cette rencontre, et c'est encore eux qui arrivent à se montrer dangereux avec la tentative de percée d'Achraf Hakimi. Finalement, il y aura une faute, le ballon sera récupéré par le club anglais, voilà, les Parisiens qui continuent de se projeter rapidement, notamment en contre-attaque, et de faire des différences, et attention parce que ça pourrait rapidement faire une différence un peu plus large dans cette rencontre, alors que les joueurs des Villains, eux, ont du mal à construire leurs occasions.
Et surtout, ils essaient de ressortir court hein, au sol, mais Paris est très très haut sur le terrain. Paris met une grosse pression. Résultat, Camara dans sa surface a transmis à Bizot, et derrière, tout le monde a été embêté. Paris a fini par gagner une touche dans le camp d'Aston Villa. On sera sur le côté gauche et Unai Emery râle. Unai Emery n'est pas content, lui qui fait quand même des prouesses hein, sur ce banc. 6e, 4e, 6e en Première Ligue sur les trois dernières saison, et ce titre donc en Ligue Europa, un titre européen que Birmingham, ou plutôt Aston Villa, attendait depuis 44 ans. La touche faite par Nuno Mendes, 34e minute de jeu, et on met très longtemps à la faire. Elle est rendue d'ailleurs, tiens, nouvelle règle.
Ah bah bien sûr. Oui.
Appliqué par Monsieur Artan qui fait signe. Mais pourquoi vous me demandez une explication? Vous connaissez la règle maintenant, vous avez pris trop de temps messieurs. Allez, on la donne de l'autre côté, et du coup ce sera une touche en faveur d'Aston Villa, et elle va être jouée assez long. Non, finalement on revient derrière cette touche jouée par Matikash.
Vers Lindelof devant sa surface de réparation.
Mais il a mis longtemps à la faire aussi Lindelof.
On a le petit coup de sifflet de l'arbitre, et le décompte commence à ce moment-là. Il était à 3 au moment où il a fait. On est très attentif. Okay. Attention, il y aura peut-être un face-à-face pour Aston Villa avec une déviation. C'est Hemmings qui entre dans la surface à gauche. Hemmings, il s'est isolé côté gauche. Il n'y aura pas de frappe de lui. Il va peut-être la mettre en retrait à Brian Maggio. La frappe! avec son pied droit, il a trop enroulé, il a pas assez enroulé plutôt, il a trop ouvert. Brian Maggio, Mallory Mings, il s'est trouvé dans une position un peu improbable alors qu'on l'attendait pas sur ce coup-là.
Et la colère de Nuno Mendes vers William Pacho. Je ne sais pas si c'est le principal fautif, Maxime, et Nuno Mendes qui lui fait signe de revenir plus vite. Parce que là, c'est lui qui a dû faire l'effort et les Parisiens qui étaient totalement dépassés sur ce coup-là.
Oui, alors il y a deux choses à prendre en considération. Déjà, dans un premier temps, en effet, Pacho perd son duel contre Maggio, ce qui permet derrière de mettre l'attaquant Aston Villa dans une situation de 1 contre 1. Il y a un très bon retour de Nuno Mendes. Mais malgré tout, la couverture de Marquinhos, de Nuno Mendes, d'Hakimi est quand même plus que moyenne parce qu'on sait que. Défenseur sort, les trois autres doivent resserrer derrière. Il est vrai derrière, par contre, que Pacho revient à un petit trot, vraiment un rythme assez peu élevé. C'est assez surprenant. Bon, derrière, la vitesse de Nuno Mendes et d'Hakimi viennent un peu compenser ça. Mais ouais, attention, on a parlé du petit Brian Maggio. Il fait aussi un bon match.
Ça en fait deux. Deux grosses occasions pour le jeune attaquant d'Aston Villa. Mais le PSG tient à le ballon sur le côté droit.
Oui, encore 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. Et c'est Gvichak Kvaratskhelia qui est trouvé à gauche, qui revient derrière en direction du numéro 87, João Neves. Et Marnès Akliouche dans le rond central. Marnès Akliouche plutôt discret hein, en ce début de rencontre. On aura le temps d'en reparler notamment à la pause. Mais voilà, c'est ses débuts, on le rappelle. Il va falloir être patient. Mais il a du mal à faire des différences et à se distinguer pour l'instant du côté de cette attaque parisienne. Touche à venir en faveur du club de la capitale au niveau de la ligne médiane.
Elle est à droite, elle est faite par Achraf Hakimi, le Marocain, prend le temps, qui la met en retrait avec Désiré Doué, qu'on a aussi assez peu vu finalement. Il va la mettre lui direction William Pacho, et l'équatorien va chercher Nuno Mendes sur le côté gauche.
Mendes qui va franchir à l'instant la ligne médiane et qui va transmettre ce ballon à Warren Zaïre Emery. Attention au pressing derrière des joueurs d'Aston Villa, et finalement on va combiner avec Gvichak Kvaratskhelia
qui a regardé sur la droite. Il y a deux joueurs, il va finalement s'appuyer d'abord sur Doué qui passe par Marquinhos pour aller sur ce côté droit, trouver Achraf Hakimi avec l'appel devant lui de Marnès Akliouche. On est dans le camp de Aston Villa, Akliouche servi, mais il a deux joueurs face à lui. Repasse par Achraf Hakimi qui va la mettre à Kvaratskhelia devant lui vers Doué. 1, 2, 3, 4 avec Akliouche.
Ouais, on combine dans le petit jeu côté parisien. Akliouche avec Hakimi une nouvelle fois, ça combine très bien entre les deux hommes. Et Akliouche qui demande une solution, il n'en a pas, il va revenir derrière en direction de William Pacho dans le rond central.
À sa gauche, Nuno Mendes, on est monté un petit peu d'un cran côté bloc parisien. Vitinha vient la chercher dans les pieds. Il y a la solution à gauche, Zaïre Emery qui est pas très loin de la ligne. Il est pressé par Matic Cash, le Polonais, là, qui lui mord les mollets. Et on va être obligé de repasser encore une fois par la charnière avec Pacho et Marquinhos, et on a reculé et on a monté justement le bloc à l'inverse côté Villa.
Jeu de possession du côté du PSG, et on va essayer de trouver une solution avec Désiré Doué qui était finalement en position de hors-jeu, et le ballon qui va être rendu aux joueurs d'Aston Villa. Messieurs,
38e minute de jeu, Maxime. Les Parisiens, on le disait, hein, qui s'en sortent bien parce qu'ils concèdent quand même des occasions, mais 37 minutes plutôt de très bonne facture quand on sait que c'est un premier match et un match de reprise dans cette saison.
Exactement, je trouve que globalement les Parisiens s'en sortent bien. Ils ont la possession de balle. Attention malgré tout aux joueurs d'Emery, hein, les joueurs d'Aston Villa, qui se sont créés quand même deux ou trois occasions, notamment via Brian Maggio, hein, l'attaquant de pointe côté anglais. Voilà, ils sont dans leur match, ils ont fait le plus dur les Parisiens. Maintenant c'est à Aston Villa justement de sortir pour essayer d'aller égaliser, et forcément ça va laisser des espaces pour les Parisiens.
Et le duel gagné là par Nuno Mendes devant son banc, devant Luis Enrique. D'ailleurs, Lucas Beraldo n'est plus à l'échauffement, donc ça ira pour le Portugais João Neves. On repart côté droit du côté du Paris Saint-Germain avec Hakimi devant lui. Va servir Zaïre Emery.
Zaïre Emery qui essaye d'avancer, mais devant lui il a Hemmings qui l'oblige à revenir derrière. Attention parce que c'est bien contré, ça va être récupéré peut-être par les joueurs d'Aston Villa avec Maggio dans la profondeur.
Maggio qui va essayer d'éliminer Marquinhos. La bonne intervention du Brésilien qui relance directement vers Vitinha qui lui réussit à ressortir sous la pression et retrouver Pacho pour installer une nouvelle phase de possession. Mais la bonne intervention du défenseur brésilien au départ, facile, le petit crochet de Kvaratskhelia là dans son camp sur le côté gauche, le relais avec João Neves pour la mettre à Vitinha.
Ouais, c'est dans la profondeur hein, qu'on a du mal à trouver des solutions du côté du PSG. Kvaratskhelia aurait pu tenter un petit centre, il y avait une solution proposée par Warren Zaïre Emery, mais finalement on revient derrière, et Kvaratskhelia qui est passé de la gauche jusqu'au côté droit, et finalement ce ballon va finir en touche. Ce sera récupéré par le club anglais.
Il est frais hein, le géorgien hein, il ménage pas ses efforts hein.
Il
a terminé sur le côté droit. Ouais. Il pourrait presque faire les championnats d'athlétisme.
Tu penses?
Ah ouais.
Ouais, mais je pense qu'il serait très bon. Hein.
Mais 800 mètres avec Varane, ça doit être pas mal.
Il peut prendre l'avion pour Birmingham avec
avec ses adversaires du soir. Hein. C'est une possibilité. S'il veut rejoindre Aurélien Tiercin à Birmingham, ça peut être une solution. On peut le prêter un petit peu, Vishak Varasrelia, qui est bien frais. Et c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. Hein. C'est vraiment l'homme de cette première mi-temps. On le rappelle, buteur à la 20e, Vishak Varasrelia, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde cet été avec la Géorgie, qui a eu le temps de se préparer tranquillement. Voilà, il est bien présent ce soir. Les Parisiens qui essaient de se projeter vers l'avant, mais c'est récupéré par les joueurs d'Aston Villa.
Et il est un peu dur ce côté droit là. Hakimi Doué, alors je dis ça, Hakimi récupère sa perte de balle face à Hemmings, mais c'est parfois difficile pour ces joueurs là, notamment dans les duels. On relance côté parisien, plein axe avec Varasquelia, cette fois en position de numéro 10 dans son camp, qui va s'écarter un petit peu sur le côté gauche, conduire la balle et trouver Désiré Doué, qui a changé avec Marlès Akliouche et qui rate sa passe en retrait vers Buendia.
Oui, avec Buendia qui va essayer de passer. Oh. Il va faire ça face à William Pacho, la tentative de dribble. Ça passe vers Majo, attention parce qu'il y a peut-être une faute. Et Varasquelia qui a pris un coup alors qu'il était sur le repli défensif. La tentative de frappe de Majo s'est contrée. Mais attention, on va surveiller parce que Vishak Varasquelia reste au sol et Buendia lui se relève. Il y a eu un sacré duel entre les deux hommes juste à l'entrée de la surface de réparation.
Ouais, je pense qu'en fait Buendia tire peut-être Maxime dans la jambe de Gvaran quand il revient.
C'est fort possible en tout cas. Ouais, il faut aussi mettre en avant encore une fois le repli défensif de Gvaran. Il est là offensivement, il est là défensivement. Et quand tu regardes un petit peu l'attitude de Désiré Doué, voilà, qui perd ce ballon un peu trop facilement, mais on vient de revoir la vidéo et en effet, hein, Gvara qui était de premier sur le ballon et c'est derrière le joueur d'Aston Villa qui l'a tapé sur la jambe du Géorgien.
41 minutes de jeu, 1-0 pour Paris, corner de la gauche vers la droite pour Villa. Buendia, premier poteau dévié par Vitinha, ça va aller donc au second poteau et le ballon mis en retrait vers McGinn à droite de la surface. McGinn qui fait une feinte de centre. Attention. Qui va réussir à se retourner, qui va centrer, deuxième poteau, Majo dessus.
Oh là là,
Brian Majo, faut régler la mire de la tête là, parce que sinon ça sert à rien de faire 1m93. Il la met au-dessus à bout portant, Brian Majo, qui avait été parfaitement trouvé encore une fois au deuxième poteau.
Ouais, le centre était très bas, Maxime, hein. Il a failli rentrer la tête, il a essayé de se plié sur lui-même pour essayer d'ajuster Matvei Safonov, mais c'était bien trop compliqué. Oh là là. Cette fois pour Majo, qui prend vraiment le ballon du dessus du crâne. Ouais. C'était assez compliqué.
Ouais, c'est compliqué parce que t'as Marquinhos qui est devant, qui essaie de sauter. Je pense qu'il cache un petit peu Majo, qui ne voit pas arriver le ballon, mais il doit bien mieux faire hein, quand même, hein, l'attaquant d'Aston Villa. C'est la troisième grosse occasion. Et même si on a dit que les Parisiens maîtrisaient globalement, attention, hein, les joueurs d'Aston Villa ont quand même beaucoup plus d'occasions franches.
Et il y a quelques erreurs, hein, notamment une nouvelle là avec une faute de João Neves. C'était sur Buendia et ça va donner un nouveau coup franc à venir, frappé par McGinn. On est légèrement excentré sur le côté droit de la surface de réparation, environ une trentaine de mètres, et on va prendre le temps de se placer du côté parisien, notamment pour éviter le hors-jeu.
Et ce sera le pied gauche de John McGinn qui a le pied chaud, hein, depuis le début, qui distribue des super ballons. Ce sera probablement deuxième poteau, c'est parti, la tête de Lindelof, ça traîne dans la surface, Marquinhos, tête de Camara, arrête Safonov qui hors de temps va se saisir du ballon. C'était encore très chaud. Il y a un problème dans les duels aériens aussi, Maxime, là. Ils les prennent pas beaucoup les Parisiens, mais encore une fois Safonov sauve Paris qui mène toujours 1-0 à 2 minutes de la pause.
Ouais, déficit de taille, hein, quand tu regardes un petit peu Brian Majo par rapport à Pacho et Marquinhos, mais oui, je suis d'accord avec vous. J'aime pas trop ce que je vois là de la part des Parisiens depuis 5 minutes. Ils ont tendance à reculer et ça justement donne les opportunités à Aston Villa, et surtout ils prennent confiance. Regardez un petit peu, le bloc est bien plus haut, ils viennent presser les Parisiens. Voilà, maintenant les Parisiens doivent absolument rester solides et essayer de contre-attaquer ces vilains justement qui ont monté le bloc, et donc ça va laisser forcément des espaces dans le dos de cette défense.
Ouais, et les coups de pied arrêtés, c'est encore un axe de travail, hein, du côté du Paris Saint-Germain. On sait qu'on essaye au quotidien de bosser ça, notamment avec l'adjoint de Luis Enrique, Raphaël Paul, qui a l'habitude de se lever sur chaque coup de pied arrêté, mais on le ressent encore ce soir, hein. C'est une petite fragilité du côté du PSG, et on voit ce groupe en difficulté dans ce type de phase de jeu, alors que là les joueurs d'Aston Villa qui essayent de pousser, d'insister en cette fin de première mi-temps.
La touche avec Matic Cash pour Villa sur la droite. On est au niveau du milieu de terrain, il va la faire en retrait vers Victor Lindelof. 44e minute de jeu, Paris a toujours un but d'avance grâce à Gvaratskhelia. La passe plein axe vers Hemmings. Non, oui, c'est Hemmings qui a réussi à contrôler ce ballon. Là, on a gagné 40 mètres en une passe. Et Hemmings, face à trois joueurs, a pu conserver, mais le bloc parisien s'est replacé. Et on a retrouvé Pau Torres en défense centrale. Pau Torres avec Hemmings dans le cœur du jeu.
Ouais, Hemmings qui va essayer de combiner avec Buendia qui arrive à se retourner. Buendia qui transmet à Majo. Attention, Majo qui est tout seul face à Pacho. Oh. Majo, la frappe et le poteau extérieur. Le poteau extérieur, il me semble.
sur Maggio qui a réussi physiquement à repousser d'abord William Pacho et derrière à frapper à bout portant, et c'est le poteau extérieur de Matvei Safonov qui sauve les joueurs parisiens sur ce coup-là. Maggio qui est clairement l'homme à surveiller du côté des Villeneuve sur cette première mi-temps, et cette fois il a failli faire la différence face à Matvei Safonov.
Il y a un très bon travail de Buendia qui arrive à justement trouver Maggio dans la surface de réparation. Il est un petit peu chanceux parce que sur son dribble il y a le contre favorable entre lui et Pacho, et derrière vous l'avez dit, coup de pied pied gauche, voilà, il frappe, il se pose pas de questions, et malheureusement ça tombe sur le poteau de Safonov, malheureusement pour les joueurs d'Emery. Mais ouais quand tu vois un petit peu l'âge du bonhomme, quand tu vois à quel point il fait mal à cette défense parisienne, attention, surveillons-le hein, ce joueur hein.
Et tiens d'ailleurs c'est Pacho qui arrive à la toucher, à la dévier du bout du pied, il y avait corner mais l'arbitre ne l'a pas vu. Mais c'est vrai qu'à 17 ans il est en train de tout déménager dans la surface adverse. Ça fait 4 grosses occasions pour lui, le ballon toujours dans les pieds des Villeneuve sur le côté droit.
Le centre de McGinn vers Maggio, encore cette fois il marque Brian Maggio qui gagne son duel avec William Pacho. Le centre, il est délicieux, de John McGinn depuis la droite, enroulé second poteau, et Maggio plat du pied dans les 6 mètres à l'opposé, qui cette fois envoie sa reprise sous la barre de Safonov. Il était temps certes, mais il a bien géré son duel à 17 ans, et il permet dans le temps additionnel à Villa d'égaliser un partout.
Et qu'est-ce qu'il est solide, on le répète depuis le début de cette rencontre, et une nouvelle fois il a fait travailler son physique sur ce duel. Il a réussi à prendre le dessus sur la défense parisienne et à ajuster Matvei Safonov assez logiquement au vu des dernières minutes. Aston Villa revient dans cette rencontre à but partout entre Paris et les Villeneuve.
Alors est-ce qu'on peut dire que Maggio est en train d'envoyer son CV à toute la terre,
il l'aimait bien parce qu'il est totalement totalement sur l'arrière en fait hein. Il est en train de tomber et il met ce plat du pied gauche magnifique sous la barre transversale.
L'action présente était beaucoup plus facile à mettre. Alors le centre du capitaine d'Aston Villa est exceptionnel aussi. Il y a une erreur aussi hein, de Pacho hein, qui regarde juste l'attaquant et qui n'est pas concentré sur le ballon. Et derrière Maggio avec son physique voilà, de déménageur, il prend le meilleur sur Pacho et il ne se pose pas de questions. Une touche de balle, ça finit au fond des buts. Honnêtement, ce qu'on vient de voir sur cette première mi-temps de la part de Maggio, c'est exceptionnel vu son âge hein.
Ah ouais.
Premier but en pro. Premier but en pro. Premier but chez les professionnels, puisqu'avec Metz, il n'avait pas marqué en 5 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Et il en avait mis 4 en prépa. Donc ça annonçait quand même le talent du bonhomme. Mais le faire là ce soir, et t'as raison, hein, faire la première mi-temps qu'il fait face à Pacho, qui est quand même pas le pire des clients.
C'est
l'une
des références d'ailleurs à son poste. Hein, mais c'est vraiment important de comprendre qu'il gagne presque même tous ses duels physiques. Il est très très intéressant pour garder le ballon. Il est plus que précieux. En tout cas pour le jeu.
Attention McGinn qui arrive à passer dans la surface de réparation. Une fois, deux fois, la tentative de centre, c'est dégagé in extremis par Achraf Hakimi. Mais attention, ça revient, c'est pas terminé pour les Villeneuve.
Avec Madsen à gauche de la surface, Madsen qui essaie d'entrer, c'est bouché. Brian Maggio qui est sorti de la surface sur le côté gauche, passe en retrait pour Torres qui va peut-être la mettre, parce qu'après ce sera la pause. On a dépassé largement la minute de temps additionnel. Il y a Madsen à gauche de la surface, il est battu par Hakimi.
Ouais, et les Parisiens qui vont arriver à repartir. Attention avec Hakimi qui va essayer de combiner avec Marnès Akliouche, et finalement c'est la mi-temps sifflée par Omar Artan. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. L'ouverture du score parisienne à la 20e, signé Kvishak Varaskelia. Et la réponse juste avant la pause à la 44e, signé Brian Maggio, 17 ans seulement, passé par le FC Metz, et qui réalise une très grande première mi-temps. Tout reste à faire, messieurs, dans cette Super Coupe d'Europe ici à Salzbourg.
Merci Valentin Jamin, merci à Arthur Perrault. On vous retrouve tout à l'heure pour cette seconde période de la Super Coupe d'Europe. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Un mot rapide avec toi Maxime sur cette première période. Le PSG qui avait très bien commencé cette Super Coupe d'Europe et qui a mal fini. Ça vient aussi peut-être de la prépa tronquée.
Voilà, t'as tout résumé. J'ai trouvé intéressantes les 30 premières minutes parisiennes, en l'occurrence jusqu'au but de Kvara. Et derrière, c'est vrai qu'ils ont tendance ils ont eu tendance un petit peu à reculer. Et puis Aston Villa qui a pris confiance et qui s'est retrouvé dans une situation où est-ce qu'ils ont 2-3 grosses occasions qui n'ont pas été transformé, mais derrière, voilà, t'as un jeune qui s'appelle Brian Maggio et qui a fait parler la poudre, entre guillemets, qui a pour moi pris le dessus physique sur Pacho et Marquinhos et qui a vraiment et clairement vraiment montré à la planète football qu'il existait ce soir.
17 ans, Majo, il a été monstrueux sur cette première période pour Aston Villa. Un but partout dans cette Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. On file justement à Birmingham retrouver Aurélien Tiercin, Teddy Tango, Léna Marjac. On va suivre une finale avec une énorme chance de médaille. C'est le 400 mètres avec Mohamed Abdallah Konta, Aurélien.
Oui, exactement, énorme chance de médaille parce qu'en demi-finale il nous a émerveillé avec un 44-38, deuxième performance française de l'histoire derrière le record de France de Samuel Vessa, éliminé lui malheureusement en demi-finale. Teddy, vraie chance de médaille, il est au couloir numéro 8 et évidemment le concurrent le plus dangereux, ce sera le local de l'étape. Il a une tribune à son nom, on le répète depuis le début de la semaine à Birmingham, Matthew Hudson-Smith, mais qui pourrait peut-être physiquement piocher un petit peu.
Ah là, clairement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance en Kunta par rapport à sa demi-finale. Par
il a l'air
rapport
déterminé
à sa
là.
Saison.
Il a l'air déterminé.
Exactement, par rapport à sa saison.
Là.
je reste quand même sur le fait que Matt Hudson-Smith n'a pas montré un grand visage le concernant et que ça peut être une bonne chose pour nous. En tout cas, voilà. Si j'ai vraiment confiance en français pendant ce championnat d'Europe, c'est vraiment Kunta.
Jamais médaillé en individuel, il a déjà été vice-champion d'Europe avec le relais 4x400. C'est un relayeur solide, Mohamed Kunta, mais à 31 ans, il veut enfin remporter une médaille en individuel. On va citer, Teddy, les autres concurrents de cette finale, notamment le Hongrois Attila Molnar, couloir numéro 7, l'Allemand Jean-Paul Bredao, couloir numéro 6, ou encore le Néerlandais Jonas Pfeiffer, couloir numéro 5. Ensuite, il y a un autre Hongrois, Enningi, un Polonais Svedz et le Belge Daniel Segers, mais ça devrait se jouer entre Bredao, Molnar, Kunta et donc Matthew Hudson-Smith.
Clairement. Ce qui va être intéressant, n'est-ce pas, c'est le fait que Matt Hudson-Smith en fait court en fait devant Kunta.
C'est ça.
Voyons voir s'il va
s'accrocher.
Il faut voir s'il va s'accrocher en fait à son rythme ou bien s'il va décider de faire sa propre course, ça va être assez déterminant.
Et est-ce que c'est un avantage ça pour Mohamed Kunta de l'avoir dans son viseur ou alors tu peux voir les écarts qui se creusent rapidement, c'est ça le problème?
En temps normal j'aurais dit oui si on avait un grand Matt Hudson-Smith. Maintenant, étant donné qu'il n'est pas au meilleur de sa forme, il pourrait l'emmener sur un faux rythme s'il cherchait à le suivre. Donc je pense qu'il faut qu'il reste sur sa course tout simplement, qu'il fasse ce qu'il a fait lors de la demi-finale et ça devrait passer.
Les athlètes, les 8 athlètes qui vont se mettre dans les starting blocks. Évidemment, le silence se fait à Birmingham. La nuit commence à tomber ici, 20h52 heure locale, 21h52 en français. Mohamed Abdallah Kunta qui pourrait rapporter la troisième médaille de la délégation française ici à Birmingham. Il est couloir numéro 8 à sa gauche, Attila Molnar, le Hongrois. À sa droite, Matthew Hudson-Smith, le recordman d'Europe. C'est parti pour Mohamed Abdallah Kunta. Il, pour l'instant, est dans les roues de Matthew Hudson-Smith qui est quand même bien parti, Teddy, dans le premier virage. La foulée est bien ample du côté du Britannique.
Oui, clairement, après c'est son style de course, hein. C'est une personne qui va vite, assez vite sur le 200, donc forcément il partira plus fort.
Et là, il est parti très vite, effectivement. Et Kunta qui a été excellent dans la deuxième partie de course. Derrière Bredao, l'Allemand, et Molnar, le Hongrois, reviennent sur les talons de Mohamed Abdallah Kunta. Matthew Hudson-Smith qui est en forme, qui est loin devant. Pour le moment, ça devrait aller pour le Britannique. Mais Abdallah Kunta, Mohamed Kunta qui va
et
faire son retard.
Il
va monter sur
c'est
le podium.
Allez,
ça, c'est une
c'est
certitude.
Pour toi, c'est pour toi.
Et il va aller manger peut-être Matthew Hudson-Smith. Ah, c'est compliqué. Attention à Pfeiffer. Ah, ça sera le bronze pour Mohamed Abdallah Kunta, la troisième médaille de bronze.
Dommage.
Pour l'équipe de France ici à Birmingham, l'or pour le local de l'étape, Matthew Hudson-Smith et Jonas Pfeiffer, le Néerlandais. Tu me dis si je me trompe, Teddy, mais je crois qu'il a volé la médaille d'argent à Mohamed Abdallah Kunta.
Ça se joue derrière.
Ah non,
44-40, il est deuxième.
Ah, c'est en argent.
Oui,
c'est en argent pour Mohamed Abdallah Kunta, vice-champion d'Europe pour sa première médaille en individuel à 31 ans derrière le Britannique Matthew Hudson-Smith.
Il est déçu.
Ah, il est déçu.
Il est déçu parce qu'il pensait à la victoire. Maintenant, je pense qu'il a fait quand même
à 44-40, c'est un très joli chrono.
C'est un
pour
très
lui.
Joli chrono. Maintenant, quand on regarde sa demi-finale, forcément, ça lui demandait en fait, de refaire la même course un peu plus vite. Peut-être qu'il n'a pas voulu justement suivre Matt Hudson-Smith, qui nous a quand même surpris, puisqu'il a réussi à tenir justement son avance sur toute la course en fait. Et peut-être qu'il aurait fallu partir un peu plus vite justement pour le talonner et le challenger sur la fin. Mais bon. Voilà, c'est une médaille, il faut la prendre, c'est la première de sa carrière. Après toutes ces années de galère, il a été énormément blessé. Je pense qu'il faut récupérer cette médaille, il faut la savourer parce qu'il nous a montré une régularité monstrueuse depuis le mois de juin. Et clairement, il peut commencer à se dire, bon, pourquoi pas moins de 44 l'année prochaine. Vraiment, en plus avec l'émulation qu'il apporte avec Vessa maintenant, bah, ça peut faire de belles belles choses. Et encore plus une pensée, n'est-ce pas, pour le relais qui devient de plus en plus solide.
Absolument, le 4x400 hommes qui se courra ce week-end. Il a quand même résisté à Jonas Pfeifers, le néerlandais, qui bat lui le record national des Pays-Bas en 44-41. Leslie John a donc été effacé des tablettes par Samuel Vessa. Mohamed Kunta qui a le deuxième chrono de l'histoire d'un Français sur ce tour de piste. Et ça, effectivement, c'est quand même excellent de le voir arriver à un an des championnats du monde à Pékin et à deux ans de Los Angeles 2028.
Mais quand vous regardez, vous voyez bien qu'il est en train de revenir. Mais je pense vraiment qu'il lui a vraiment, il lui a manqué en fait justement ouais, quelques mètres. Hein, vraiment, ça s'est joué. Je pense que ça s'est joué vraiment sur le premier 200 mètres, même le premier 150 mètres.
Et rappelons que c'est une légende du 400 devant Mathieu Hansen. C'est pas n'importe qui, un record même.
C'est une légende du 400, mais on voit, on le voit au chrono qu'il n'était pas dans sa forme optimale. Après, il a une telle marge aussi que bon, il peut descendre son niveau entre guillemets de 5% et toujours rester devant.
Bon, voilà, médaille d'argent, Johan, c'est cadeau. C'est la troisième de l'équipe de France.
Et la plus belle. Et la plus belle.
Eh oui, elle est magnifique. Oui, on a eu deux bronzes.
Et la plus belle.
Deux bronzes et une médaille d'argent pour le moment.
Mais pour le moment. Parce qu'il y aura d'autres finales à vivre tout à l'heure pour cette soirée d'athlétisme, ces championnats d'Europe, notamment la finale du 400 mètres haies chez les femmes dans un peu moins d'un quart d'heure avec Louise Maraval. Et on vous le disait, trois Français en finale du 110 mètres haies à suivre à 22h47. On vous retrouve donc tout à l'heure, Teddy Tango, Aurélien Tiercin, Elena Marjac en direct de Birmingham pour ces championnats d'Europe. Je vous rappelle qu'on est à la pause de ce PSG Aston Villa, la Super Coupe d'Europe, un but partout. On se retrouve très vite avec Maxime Chano dans l'Afterlife pour vivre la seconde période. À tout de suite.